France Inter, le 18-20.
Une semaine en France en compagnie ce soir d'une femme qui a mis du temps à faire oublier son prénom, si tant est qu'on l'ait vraiment oublié. Comme si Mazarine Pinjot n'en finissait pas de construire sa propre légitimité, comme elle l'a fait par les études, l'enseignement, puis l'écriture. Aujourd'hui, elle publie un nouveau roman, terriblement dans l'air du temps, un livre intitulé « Se taire » aux éditions Julliard. Se taire, comme ces femmes qui n'osent pas porter plainte quand elles sont victimes de violences, soit qu'elles aient trop peur ou qu'on les en dissuade. Se taire comme elle l'a fait, elle aussi, pendant autant de temps, à l'époque où il ne fallait pas dire qu'elle était la fille du président, où il ne fallait pas dire surtout que le président Mitterrand avait une fille. On va parler de tout cela avec elle ce soir, également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menem et réalisée par Marion Lelay, l'actualité de la semaine, et des bonnes ondes signées ce soir Antoine Geoffin. À l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, nous irons au restaurant Le Reflet, qui vient d'ouvrir à Paris. Comme à Nantes, ses employés sont des personnes trisomiques, car ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. On poursuivra la réflexion au téléphone sonne avec cette question. Que faire pour améliorer l'emploi des personnes handicapées? Vous pouvez d'ailleurs déjà nous appeler pour en parler au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Mazarine Pinjot.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. Merci. Vous publiez donc chez Julliard un nouveau roman intitulé « Se taire ». C'est l'histoire d'une jeune photographe qui a rendez-vous avec une personnalité, un homme qui a obtenu le prix Nobel de la paix. Cette jeune photographe va le voir pour une séance de photos et c'est là que tout bascule puisqu'elle est violée par ce personnage a priori intouchable. Elle-même vient d'une famille en vue, son père est un chanteur connu. Voilà, ça c'est le point de départ de cette histoire, de cette agression. On va pas raconter cette histoire, mais ce livre c'est quoi? C'est sur la difficulté de dire ce qui s'est passé, de dire aux autres, de se dire même à soi-même.
Oui, c'est sur les différents niveaux de silence. Il y a la difficulté de se le dire à soi-même, en effet, puisque cette jeune fille fait les photographies après qu'elle a été violée, donc dans cette scène inaugurale où finalement elle fait son travail comme une bonne petite fille, quoi, comme quelqu'un qui a été missionné pour rapporter des photos, et elle rapporte les photos. Alors effectivement, dans un état de sidération et de choc, mais aussi le fait de faire les photos après lui permet de dire qu'elle n'a pas vécu la chose. Enfin, c'est là aussi une forme de déni. Donc il y a d'abord effectivement le silence vis-à-vis de soi-même, la difficulté d'accepter qu'on a vécu ça. Ensuite,
la difficulté de dire à la famille.
Il y a la difficulté de le dire à la famille, et là les choses se corsent un petit peu parce que finalement elle va finir par leur dire, mais le problème c'est qu'elle va pas vraiment être entendue. C'est-à-dire qu'elle va être entendue. On va entendre la souffrance qui a été la sienne. On va l'accompagner. Elle est dans une famille plutôt aimante, enfin qui n'est pas particulièrement maltraitante, et qui pourtant va considérer que le fait de parler au vu de leur statut sur la scène publique serait plus dangereux pour elle que de se taire. Et d'une certaine manière, enfin, c'est ce que j'ai voulu mettre en place dans ce livre, le piège qui se referme sur elle, c'est que, je répète, d'une certaine manière, et ils n'ont pas complètement tort, même si en réalité, à mon sens, ils ont tort. C'est qu'ils pensent que le scandale qui va suivre une telle révélation, finalement, la mettra au cœur d'un dispositif où elle sera à nouveau un objet dont on va parler, à nouveau un objet dont on décrira ce qui lui est arrivé de manière extrêmement intime. Et finalement, on va rejouer quelque chose qui serait de l'ordre comme ça de l'ordre d'une forme de domination. Et en même temps, la famille préfère ne pas parler aussi parce que à certains égards, ça la dérange, ça dérange d'associer l'idée de viol à l'image qu'il cultive, à savoir d'être un chanteur engagé, sympathique, qui doit pas être associé à l'idée de violence.
Le fait que l'auteur des faits et que la victime soit des gens connus, ça complique les choses. C'est ce que vous nous dites, mais même quand les gens sont pas médiatiquement connus, c'est une épreuve.
Ah mais bien sûr, moi, le fait d'avoir mis ça sur la scène publique, c'était aussi une manière d'interroger la façon dont on médiatise ces choses-là et comment on parle du viol en fait sur la place publique. C'était aussi l'un des intérêts.
Et qui sait si c'est un sujet d'actualité, hein.
Évidemment, ouais, on est rattrapé chaque jour hein, par cette actualité. Et c'est vrai que cette famille préfère donc protéger, préfère protéger la jeune fille en lui enjoignant de se taire. Et cette façon de protéger l'autre en lui disant de se taire, évidemment, c'est pas le fait exclusivement d'une famille qui a pignon sur rue. Ça peut être le fait de toutes les familles. C'est la loi du clan qui intervient sur l'individu qui est blessé. Et finalement, on préfère taire la blessure pour continuer comme si de rien n'était.
Mais pas que le clan, hein, puisqu'il y a aussi la question de la société. société, porter plainte ou pas, main courante ou pas, c'est un sujet terriblement d'actualité là aussi, et il est dans votre livre.
Absolument, donc ça c'est les troisièmes cercles, si
j'ose dire. La police aussi. Hein,
donc il y a d'abord le déni, ensuite il y a la difficulté de parler aux siens, il y a le fait que les siens ne l'encouragent pas à parler, et pour la protéger, entre guillemets, encore une fois, lui enjoignent plutôt de se taire. Et puis, il va y avoir un troisième cercle qui sera celui des institutions. La première institution étant celle de la police, où effectivement elle va finalement porter plainte, je raconte pas de la façon dont elle finit par y aller, etc. Mais toujours est-il qu'elle finit par y aller. Et là, on minimise. On minimise d'abord parce que l'agresseur, est un homme connu, respecté, incontestable. Et ça, c'est extrêmement important pour moi qu'il soit incontestable. C'est-à-dire que sa valeur marchande sur l'économie de la morale fait que la parole de la femme est d'emblée discréditée. Avant même qu'elle puisse s'exprimer, en réalité, il y a une sorte d'hypothèque sur sa parole. Et finalement, dans les conditions même du débat, d'emblée, on ne pourra pas l'entendre. On ne pourra pas l'entendre parce que cet homme, personne n'a envie de mettre en cause sa parole. Ça remettrait en cause trop de choses, d'une certaine façon. Et donc, l'identité de cet homme fait que la police se dit bon, ça va être une mise en danger plus grande de l'institution que d'entendre et d'accepter la parole de cette jeune fille qui a finalement assez peu de poids par rapport à l'agresseur présumé, que d'enclencher les procédures. Donc on va lui dire, on va couper la poire en deux, et puis on va vous allez faire une main courante, avec toujours cette idée que peut-être qu'elle ment. Après tout, la parole d'une victime, c'est la parole d'une victime. Et il y a toujours le soupçon que cette parole ne soit pas étayée par des faits.
Quand avez-vous commencé à écrire ce livre ? C'est après MeToo que cette envie est venue ?
C'est avant, après. Je dirais qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont présents, enfin, dans le livre, et qui me travaillent depuis très longtemps. Et MeToo aura été plutôt un déclencheur. C'est-à-dire que l'actualité est vraiment venue rencontrer des thématiques que je creuse, que je questionne depuis un certain temps, et qui se sont trouvées incarnées de manière assez évidente pour moi dans cette actualité-là.
Une actualité qui continue, hein, parce que c'est quand même ça la particularité de ce qui s'est passé après MeToo. On a vu l'autre jour la prise de parole d'Adèle Haenel. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de la sortie du film de Polanski, J'accuse. Je voudrais vous faire écouter, suite aux accusations de la photographe Valentine Monnier, qui affirme avoir été violée en 75 quand elle avait 18 ans, ce qu'a pu dire l'autre jour, parce qu'il y a beaucoup de polémiques à propos de la sortie de ce film, ce qu'a pu dire le ministre de la Culture, Franck Riester, et il s'exprimait devant des réalisateurs, devant la profession.
L'actualité est venue nous rappeler que la loi qui trop souvent prévaut dans ce monde-là, c'est la loi du silence. Lorsque des voix s'élèvent pour briser ce silence, il faut les écouter. La présomption d'innocence est un principe fondamental de notre République. Mais je refuse qu'elle s'accompagne d'une présomption de mensonge pour les victimes. Lorsqu'elles parlent, leur parole est trop souvent entachée de soupçons. Surtout lorsqu'elle révèle des agressions commises des années, voire des dizaines d'années avant. Nous devons admettre qu'il faut du temps avant de pouvoir parler, pour aller à l'encontre, parfois, des menaces, du sentiment que certains sont intouchables parce que leur œuvre les protège. Le talent n'est pas une circonstance atténuante, le génie, pas une garantie d'impunité. Comprenez-moi bien, vous me trouverez toujours aux côtés des créateurs lorsqu'il s'agit de protéger la liberté de créer. Mais l'œuvre, si grande soit-elle, n'excuse pas les éventuelles fautes de son auteur. La sanction, c'est à la justice de la porter, pas au tribunal de l'opinion.
Mazarine Pinjot, vous qui êtes professeur de philosophie, que vous inspirent toutes ces réflexions et puis tout ce qu'on a pu entendre sur le fait de séparer l'œuvre de l'artiste ? Est-ce que vous-même, vous irez voir ce film de Roman Polanski ou pas ?
C'est hautement complexe. Je dirais que c'est vraiment une question hyper, hyper compliquée. D'abord compliquée parce que dès qu'on parle de ça, ça réactive des passions telles que c'est très difficile de parler sereinement et d'essayer, en fait, surtout de mettre de l'ordre dans les pensées.
C'est pour ça que je
de sortir de la confusion. Alors, je ne suis pas du tout sûre de détenir une parole plus légitime qu'une autre. En tout cas, pour ce qui me concerne, vraiment à titre purement personnel, j'essaye de démêler dans ce dialogue intérieur avec moi-même. J'essaye déjà d'avoir une idée claire des choses et ce n'est pas simple. Vraiment, ce n'est pas simple. D'emblée, je dirais comme ça, ma première réaction, c'est de distinguer de manière radicale le plan de l'œuvre et le plan de l'homme, non pas en tant que l'œuvre n'a rien à voir avec l'homme, mais en tant que moi, comme spectatrice, je ne vois pas en quoi le fait d'aller, enfin, je ne vois pas en quoi ce qu'a fait Roman Polanski, ou en tout cas ce qu'il est censé avoir fait. Hein, il n'a pas encore été jugé, mais bon, visiblement les faits s'accumulent. En quoi cela m'empêcherait d'aller voir un film qu'il a réalisé? J'aime beaucoup le réalisateur. Enfin, je trouve qu'il est vraiment extrêmement talentueux. Un film qu'il a fait dans la mesure où le film, par définition, ne sera pas l'apologie de sa propre pathologie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller voir un film qui parle du viol et qui dit c'est formidable d'avoir des rapports sexuels avec des très jeunes filles. C'est-à-dire que, par exemple, je fais une comparaison. Mais encore une fois, j'ai pas encore une conclusion claire. J'essaye juste de poser le problème. Je fais une comparaison. Imaginons qu'il y ait un film, par exemple, de Dieudonné. Voilà. Je me dis, est-ce que j'irai le voir? Et d'emblée, je me suis dit, non. Pourquoi? Quelle est la différence? La différence, c'est que si Dieudonné fait un film, ça sera un film politique. Ça sera un film où il va mettre en scène ses idées et où il y aura quelque chose de l'ordre d'un engagement qui, pour moi, est nauséabond et donc j'ai pas envie d'aller voir ça. En l'occurrence, si on distingue l'œuvre de l'homme, c'est que l'œuvre de Polanski a peu de choses à voir avec... Alors, c'est là où les choses deviennent beaucoup plus complexes.
Surtout que Roman Polanski fait le parallèle entre ce qui est arrivé au capitaine Dreyfus et puis son sort à lui.
C'est pour ça que je vais y venir. Toujours est-il que pour l'instant, un film sur Dreyfus n'a rien à voir avec ce qu'il en est de sa relation avec les femmes et de sa relation violente et de l'autorisation visiblement qu'il s'offre pour avoir des relations sexuelles avec les femmes. Donc pour moi, ça n'a rien à voir. Maintenant que dans sa promotion, il fasse ce rapprochement. Là, évidemment, il y a quelque chose qui est assez indécent et qui est assez insupportable. Mais d'une certaine façon, c'est externe au film lui-même, c'est externe à l'œuvre elle-même. Œuvre qui, en plus, dans le cinéma, est toujours une œuvre collective. Hein. Il n'y a pas qu'un réalisateur, il y a quand même toute une équipe derrière, il y a des techniciens. Enfin, ne pas aller voir le film, c'est aussi, d'une certaine manière, faire payer ces gens-là. Mais outre cette question, parce que dans le cinéma, c'est pas comme en littérature, où il y a un auteur et il y a un livre, je trouve compliqué de devoir, si vous voulez, avoir un rapport à une production culturelle qui soit indexée à une question de justice. La justice, elle va juger un homme, mais la justice, elle va pas juger un réalisateur. Et heureusement que la justice va juger un homme. Je suis pas juge et je suis pas dans le tribunal qui pourra juger, j'espère, Roman Polanski. Donc je n'ai rien à dire là-dessus. J'ai pas les faits, j'ai pas le dossier, etc. La justice doit faire son travail. Mais par ailleurs, la justice va pas venir juger une œuvre. C'est confondre des espaces qui sont hétérogènes. Alors certes, on pourra dire que tout créateur met de lui-même dans son œuvre. Oui, enfin en général, les créateurs sont d'ailleurs pas des anges et en effet il y a des ressorts qui sont souvent de l'ordre de la pathologie, mais pour moi ce sont deux choses séparées. Alors j'entends bien les arguments qui veulent raccrocher recréer une articulation directe entre l'œuvre et l'homme, mais je pense que c'est une impasse et je pense que c'est condamner un grand nombre d'œuvres, de que ce soit de l'histoire du cinéma ou que ce soit de la littérature française, et qu'il y a quand même un danger à identifier, qui est qui est une moralisation de la vie sociale, y compris de la vie culturelle, certes, mais qui est une moralisation de la critique artistique. Alors là, excusez-moi, mais je vois plus le rapport, quoi.
Alors une petite question, Mazarine Pinjot, sur les journalistes, par rapport à la libération de la parole à laquelle on assiste depuis 2 ans. Et là, je me réfère au prologue de votre livre, Se taire. Vous écrivez, je vous cite, « Le journalisme avait abandonné sur le champ de bataille sa déontologie. L'heure était à l'alali, on cherchait les coupables avec des pics sur lesquels, à l'instar des sans-culottes, on aurait volontiers planté des parties génitales sanguillonnantes afin de les exposer à la vindicte populaire. » Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que la presse en fait trop?
Ça veut dire que la presse, je parle pas que de la presse, je parle des réseaux sociaux, enfin, je parle de la façon dont on médiatise, quel que soit le média, dont on a médiatisé ces histoires. C'est que, il me semble, mais ça, c'est encore une fois, c'est l'économie aujourd'hui de la presse, c'est-à-dire le fait qu'un buzz vaille plus cher sur le marché qu'un travail de longue durée et qu'une enquête de longue durée. Malheureusement, les journalistes sont victimes de cette économie-là, quoi. Le fait que quand on lâche un nom connu, on sait sait bien que ça va faire le tour des réseaux, que chacun va y aller de sa petite histoire, et que en fait, on est en train d'oublier la présomption d'innocence.
Vous dites ça parce que certains ont lu dans votre livre peut-être une histoire dont il a été question.
Oui, bien sûr, on cherche toujours des effets de réel, et je peux le comprendre par ailleurs. Ensuite, un livre, c'est jamais que ça, puisqu'il cherche justement à aller déconstruire en profondeur les mécanismes de la domination, les mécanismes du silence, les mécanismes de cette organisation sociale du silence, parce que le silence, c'est jamais une question psychologique, hein, c'est toujours une question sociale. Et c'est la raison pour laquelle ça rencontre ce questionnement sur les femmes aujourd'hui, sur le fait qu'elles soient encore victimes de manière aussi, enfin voilà, aussi nombreuses de ce qu'on appelle les féminicides, et puis d'agressions sexuelles qui sont même pas perçues comme des agressions sexuelles. Donc, je trouve que dans ce domaine-là, il faut ramener de la loi, il faut ramener une forme de précision, de clarté. Mais en revanche, il faut aussi ramener une forme de clarté pour séparer les espaces.
Vous irez à la manifestation demain?
Normalement, j'y vais.
Les violences faites aux femmes. Voilà, on va rappeler que c'est à Paris et ailleurs, et que dans la capitale, ce sera entre Opéra et République à partir de 14h. On va passer à l'actualité de la semaine. Mazarine Pinjot, maintenant, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Céline Hilla. À la une cette semaine, un anniversaire, celui des Gilets jaunes, un an déjà.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Ils viennent d'interdire une manifestation autorisée à l'Asie d'Italie. Donc voilà, à vouloir pas laisser les gens manifester, les rues elles sont toutes envahies.
Il y a, je sais pas, ils sont au moins 150 flics sur des motos, deux par deux, surarmés, masqués. Et surtout, ils sont hyper impressionnants, et c'est les cow-boys, quoi.
Décidément, même pour un anniversaire, impossible pour les Gilets jaunes de défiler dans le calme. Il faut dire que les casseurs étaient au rendez-vous, eux aussi, le week-end dernier. Un an après, la question du maintien de l'ordre reste donc entière. Et cela alors que se profile à l'horizon la mobilisation du 5 décembre contre la réforme des retraites.
Il y a la grève générale le 5 décembre. Là, je pense quand même que ça va plus bouger.
Oui, ça va plus bouger.
Il faut que ça soit tout le monde. Même les gendarmes, même les policiers. Enfin, c'est des citoyens comme tout le monde.
Regardez les pompiers, le milieu hospitalier.
Je sens bien qu'il y a une colère qui monte à tout niveau. C'est pas que les gilets jaunes en soi.
Les paysans qui se suicident. Maintenant, les étudiants qui se font brûler parce qu'ils n'y arrivent plus. Non, mais il y en a marre.
C'est tout le monde, c'est les enseignants, c'est les infirmiers, c'est même les médecins. Enfin, il y a tous les corps de métier se plaignent.
Avis de gros temps pour le 5 décembre, d'autant que le Premier ministre a fini par le reconnaître du bout des lèvres sur France Inter. On va bien vers un relèvement progressif de l'âge de départ à la retraite, même si ce n'est pas dit ainsi pour l'instant.
Si nous voulons équilibrer le système des retraites, il faut dire aux Français, clairement, tranquillement, le faire progressivement, que nous allons travailler plus longtemps. Clairement, que nous allons travailler plus longtemps.
Alors, pour éviter un embrasement général, le gouvernement tente d'éteindre les incendies, ici et là. Cette semaine, il a présenté son plan pour l'hôpital. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
C'est un plan massif, c'est un plan historique. Ça n'a jamais été fait, jamais, jamais, jamais.
Si on diagnostique une urgence vitale, on ne donne pas une aspirine.
Un représentant de la CGT.
Il tente de donner le minimum pour voir si ça calme un peu les choses. Mais ils sont fous, quoi. Ce gouvernement est fou.
Emmanuel Macron au Congrès des maires de France cette semaine. François Baroin a mis les pieds dans le plat en lui reprochant d'avoir en grande partie supprimé la taxe d'habitation.
Comme tous les chefs d'État, et vous n'êtes pas le premier, vous avez décidé de supprimer un impôt qui ne vous appartient pas.
Piqué au vif, le président lui a rendu la monnaie de sa pièce.
Sur la taxe d'habitation, si durant votre campagne, beaucoup de vos électeurs vous reprochent la baisse, faites-le-moi savoir. Et qu'ils viennent se plaindre. Et parfois, peut-être, vous aurez le droit d'empocher les félicitations qu'ils vous livrent à vous, et pas au gouvernement.
5, 4...
Seule satisfaction pour le gouvernement, la privatisation de la Française des Jeux, qui va ramener de l'argent dans les caisses de l'État, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.
Et à l'heure où je vous parle, il y a pour 1 milliard d'euros de souscription des particuliers. Donc c'est un immense succès populaire.
À propos de succès, bravo à France Inter, toujours en tête, qui vient de faire la meilleure rentrée de son histoire. Radio France a fait une rentrée extrêmement puissante, une rentrée historique, et on lui demande de faire des économies. Pourquoi ?
Parce que nous demandons à tous ceux qui gèrent de l'argent public de faire des économies.
Radio France au plus haut, merci qui ? Merci surtout à vous, les auditeurs.
Bonsoir France Inter, félicitations pour vos résultats. Et depuis que je vous écoute, ça fait 5 ans maintenant, je deviens plus intelligent chaque jour.
Et encore merci à Céline Hila. Une semaine en France, toujours en compagnie de Mazarine Pinjot, qui publie Sauter aux éditions Julliard. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité du moment, Mazarine Pinjot, s'il y a quelque chose qui a retenu votre attention.
Bah, à peu près tout, mais enfin, il y a une lourde actualité sociale, quoi. C'est vrai. Enfin, quand on entend, c'était pendant la manif, là, mais ce qui se passe en général dans le service public, en fait, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit à l'école, c'est désespérant. Enfin,
à la fac aussi.
À la fac aussi, oui, complètement, complètement. C'est une paupérisation dramatique de la fac. On n'a plus les moyens d'enseigner. Enfin, c'est je suis extrêmement inquiète. En réalité. Et j'entends la colère qui gronde et c'est normal qu'elle gronde. Maintenant, le danger, c'est que ça soit récupéré, quoi.
Vous avez toujours votre carte au Parti Socialiste ?
Je ne l'ai plus, mais c'est le moment quand même où on a envie de se dire mais que fait la gauche ? Il faut qu'elle se restructure, quoi. Il y a une béance incroyable.
Il manque un leadership ? Un Mitterrand ?
Je pense qu'il manque plusieurs choses. Il manque de refonder une pensée, quand même. On peut plus faire avec du bricolage. On peut plus aménager l'état des lieux, quoi, dans cette espèce de, enfin, je sais pas, de libéralisme bontain. On peut plus réaménager des solutions. Je pense que ça manque d'une reconstruction fondamentale de la pensée.
Vous croyez pas beaucoup et de droite et de gauche, si j'ai bien lu toujours le prologue de votre livre. Vous dites les anciens 68ards de bonne famille et les sociaux-démocrates en perte de vitesse optèrent pour la majorité en se défaisant de leur étiquette afin d'épouser le progrès, une fine gestion du pays, empruntant au meilleur leur stratégie de management et de rentabilité maximale.
Oui, je pense qu'il faut changer de logiciel. Je pense qu'il faut changer le logiciel de la rentabilité et de la gestion économique. C'est-à-dire que ce n'est pas l'économie qui doit donner le fil conducteur de la pensée sociale, quoi. C'est le béaba de la gauche et je trouve qu'on l'a perdu.
Et vous semblez vous inquiéter aussi des crispations de la société, du fait qu'on donne la parole facilement aux extrêmes, Mazarine Pinjot.
Oui, on voit bien qu'il y a une banalisation de la parole extrémiste. Une banalisation parce que on l'entend de plus en plus, parce qu'elle a aussi su trouver une forme de rhétorique qui soit acceptable entre guillemets et donc audible. Et c'est un peu le cheval de Troie, quoi. C'est-à-dire que, en effet, bon, après c'est audible parce qu'ils ont beaucoup d'électeurs, quoi, tout simplement. Et je trouve qu'il faudra arriver à trouver une parole qui puisse s'y opposer. Et qui est la force d'une évidence, quoi. Et c'est ça qu'on doit.
Vous voyez quelqu'un ou pas ?
Après, je crois pas à l'homme providentiel. Je pense, encore une fois, je pense qu'il faut que ça soit soutenu par une pensée. Ensuite, il y a des hommes. Ils sont là, enfin, ils sont là, mais ils peuvent pas arriver tout seuls sans avoir tout un attirail derrière qui soit vraiment une refondation. Et je pense qu'elle est salutaire et on l'attend aujourd'hui. Il y a déjà des gens qui y réfléchissent. Hein. Je pense pas qu'on arrive sur une terre vierge.
Alors on va parler de vous maintenant, Mazarine Pinjot, de votre histoire si particulière. Mais d'abord, on écoute Ayo Beautiful, un titre sélectionné pour vous par Djoubaka.
Looking in the mirror, but you can see yourself. What you see is a reflection of somebody else. Now if you want to find you, you gotta look underneath that shell. That's where you find true beauty of a precious pearl. Don't you know you're beautiful just the way you are? You are beautiful. You are beautiful just the way you are. You are beautiful. She wants to be like her, be like him. You wanna be like me. Why can't we just be who we are? When I was young, I wanted my hair straight, but the frizzy look wouldn't suit my face. I blow it out, but that wasn't enough, until chemicals will break my hair off. But then I knew God gave me a sign. I had to love myself so I could shine. I would let my fro grow back and wear fisticomb instead, and put on a shirt that said black and proud.
Ayo.
France Inter, le 18-20. Une semaine en France.
En compagnie ce soir de Mazarine Pinjot, à ce stade de l'émission, on invoque le parcours de l'invité. Mazarine Pinjot, ce n'est pas un traitement particulier qu'on vous réserve ici ce soir, mais
tant mieux.
Voilà. Toujours est-il que votre parcours est quand même particulier, votre vie est un roman, on peut le dire. Puis en plus, dans chacun de vos romans, vous revenez indirectement sur cette histoire. Parce que dans Se taire, la femme, personnage central de votre livre, dit « j'ai été programmée pour ne pas faire de scandale ». Donc c'est un petit peu votre histoire. Faut-il rappeler quand même que vous êtes le fruit d'une histoire d'amour entre François Mitterrand et Anne Pinjot. Vous dites « J'ai grandi avec l'idée que mes parents vivaient un amour extraordinaire et qu'il ne fallait pas que je le gâche avec mes bêtises.
» Avec ma vie même.
C'est incroyable ça. Ça voulait dire quoi? Quand vous étiez petite, tout le monde le sait, mais on va quand même le rappeler. Fallait pas dire?
Non, fallait pas dire. Et en effet, tous mes livres renvoient de toute façon, et là pour le coup, comme tous les écrivains, à des problématiques qui se sont nouées très tôt. Et en l'occurrence, l'une de mes problématiques, c'est en effet celle du silence et du secret. Et la façon dont finalement ça organise votre vie, ça organise votre rapport aux autres, ça organise même votre rapport à vous-même. Et ça rend, ça rend un peu tout compliqué.
Apprendre à se taire et à vivre caché. Sans forcément avoir menti, hein, c'est ce que vous dites dans cette affaire. Le silence s'est imposé tout seul, quoi.
Oui, le silence s'est imposé parce que c'était, ma condition. Il y a des conditions sociales. Moi, c'était ma condition de vie. Je suis née dedans, quoi. J'ai pas appris. Je suis née dedans d'une famille de toute façon illégitime où l'illégitimité m'a précédée, si vous voulez, d'une certaine façon. Donc, je l'ai jamais interrogée. Pour moi, c'était mon ADN. Enfin, c'était le saut de mon histoire et j'avais qu'à la continuer telle que je l'avais rencontrée, quoi.
C'était... Sachant que quand on est enfant, c'est difficile de se taire. Il paraît même qu'un jour, vous avez dit à l'école, mon papa est président.
Oui, alors c'est une histoire qu'on m'a rapportée, mais je m'en souviens pas moi. J'ai une très mauvaise mémoire en général de toute façon. Mais oui, en effet, je sais avoir pu dire ce genre de choses, mais même si je l'ai dit, j'ai toujours su malgré tout que c'était quelque chose de très transgressif de pouvoir dire ça. C'était peut-être pour me défendre, mais j'ai toujours su et c'était quelque chose de très profond. C'est pour ça que que cette histoire m'amuse, mais en même temps, je ne me souviens pas d'avoir eu un moment où je me suis sentie heureuse et libérée de pouvoir proclamer tout haut et à tout le monde que mon père, c'est le roi du monde, quoi. Enfin, comme on peut le faire quand on est enfant, mon père, c'est un pompier, mon père, c'est... Enfin, et je ne me suis jamais vraiment sentie autorisée à le faire, ça.
Finalement, c'est Paris Match qui l'a fait pour
ma place.
Hein, on se souvient quand même de cette révélation. Ça a été un choc immense pour vous aussi. Il paraît que vous avez eu beaucoup de courriers à l'époque d'autres jeunes, d'autres personnes qui disaient qu'elles avaient vécu la même histoire, qui disaient nous aussi on est des bâtards quelque part.
Ouais, 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 je suis devenue un peu le porte-parole des bâtards de France. mais ça, c'est surtout arrivé. Alors oui, il y a eu à ce moment-là. Enfin, j'ai eu un flot de lettres de gens qui étaient en souffrance, qui me révélaient cette histoire, alors que parfois ils ne l'avaient jamais révélée à personne d'autre. Et ça continue encore aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que
on vous écrit encore aujourd'hui.
Ou lorsque je vais dans des salons du livre, où je me déplace pas mal, je rencontre des lecteurs qui viennent me dire, écoutez. Votre histoire, enfin, ou ce que vous avez écrit, moi, me permet de mettre des mots sur des choses que j'ai eu du mal à penser parce que c'était interdit, etc. Et de me faire partager leur histoire. Et c'est un petit peu la joie de la littérature, c'est que c'est tellement intime, la littérature, quelle que soit ensuite l'histoire, même si on parle pas de soi directement, que ça ouvre à ce type de confidence. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, je reçois beaucoup les confidences d'histoires parfois vraiment dramatiques, mais qui sont toujours en lien avec une forme d'illégitimité ou de secret, et avec des femmes parfois, je dis des femmes parce que c'est plus souvent des femmes qui viennent me parler et qui n'ont toujours pas parlé alors qu'elles sont plus âgées que moi. Et je me dis, mais comment ça a pu durer aussi longtemps, ce secret? C'est pour ça que la question, de l'actualité qui est venue un petit peu rentrer de plein fouet sur le silence des femmes. Comment c'est possible qu'on arrive à se taire à ce point-là et finalement qu'on se justifie quasiment à ses propres yeux de se taire, comme si il fallait protéger les autres, alors que ceux qu'on protège en général, c'est ceux qui vous ont demandé de vous taire, et si vous ont demandé de vous taire, c'est pas toujours pour des bonnes raisons.
Alors vous avez essayé de vous fondre dans la masse de toutes les manières possibles. Il y a eu les études pour lesquelles vous expliquez que vous avez passé les concours où évidemment vous pouviez, grâce à l'écrit, cacher votre prénom. Et puis il y a eu, et ça, je le trouve aussi dans Se taire, qui parle des couples mixtes, et c'est pas un hasard, ça, Mazarine Pinjot, puisque votre héroïne Mathilde vit avec un homme d'origine égyptienne,
oui.
Vous-même, le père de vos enfants, est d'origine marocaine, et vous dites, ses origines lui permettent sans doute de prendre de la distance, de considérer la situation avec amusement, quelle importance pour un égyptien naturalisé français, que je sois ceci ou cela, ce n'est pas son histoire. Ça aussi, ça a participé de cette façon de devenir anonyme d'une certaine façon.
Alors, je mettrai pas tout sur le dos de la sociologie, mais dans un couple, tout ne relève pas de ça. Mais néanmoins, il y a peut-être un peu de ça, c'est-à-dire que cette idée que ailleurs qu'en France, enfin qu'il fallait sortir de la France parce que elle était un petit peu occupée intégralement par je sais pas le nom du père, mais bon c'est un peu de la psychanalyse à la petite semaine, mais
le nom du père que vous avez fini par prendre,
oui.
Il y a pas très longtemps.
Oui,
hein, c'est c'était vrai, quoi en ouais. 2016, quelque chose comme ça, je crois.
Ça doit être ça. Oui, j'ai fini par le prendre. C'est une longue histoire. Mon père voulait que je le prenne, mais en même temps, il fallait faire une démarche. Enfin, il fallait que ce soit moi qui fasse la démarche. Donc, c'est une démarche compliquée, justement pour tous ceux qui n'ont pas le nom du père. C'est une démarche compliquée parce qu'il faut justifier auprès d'un juge de la légitimité pour laquelle vous demandez à récupérer votre nom, enfin ce qui est censé être votre nom mais qui vous a été ôté par votre histoire. Et donc il faut se justifier. Donc par exemple ça, typiquement, c'est quelque chose qui empêche. Moi, pendant très longtemps, je me suis dit, mais j'ai aucune envie de me justifier. Je vois pas pourquoi moi je me justifierais d'être la fille de mon père. Donc non, je le fais pas et je préfère garder, après tout, mon nom de famille, qui est en plus le nom de ma famille, au sens où la famille qui est vraiment la mienne, c'est la famille de ma mère. La famille de mon père, je l'ai pas connue, aussi pour cause de grandes différences d'âge. Mais mes grands-parents étaient morts déjà depuis une génération. Mais donc, voilà, c'est des choses qui sont compliquées pour un enfant. Alors, je parle vraiment plutôt pour les autres que pour moi, parce que d'une certaine manière, j'ai pu récupérer ce nom, ça n'a pas du tout été difficile, etc. Mais pour un enfant qui déjà n'a pas été reconnu, alors moi j'ai été reconnue, donc c'est pour ça que je parle aussi des autres, qui n'a pas été reconnu et qui veut se réintégrer dans une forme de filiation, en fait, c'est un petit peu un parcours du combattant. En tout cas, il est remis à l'endroit de celui qui demande, alors qu'il devrait légitimement avoir ce nom.
Vous dites, parce que vous êtes aujourd'hui mère de 3 enfants, devenir mère m'a permis de m'inscrire dans une filiation, de ne plus être hors sol.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que d'une certaine manière, ça m'a inscrit dans une filiation par l'aval plutôt que par l'amont, je dirais. Parce que lorsqu'on a des enfants, ça réinterroge toujours son histoire. D'abord parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas venir que de vous. Et donc, ils viennent de quelque chose qui vous précède aussi. Et dès lors qu'ils arrivent, il y a une forme de responsabilité à se réinscrire dans ce qui vous dépasse, c'est-à-dire votre histoire, vos aïeux, enfin vos parents, vos grands-parents, etc. Et donc, en tout cas pour moi, les enfants ont eu aussi, parmi tant d'autres, cette vertu-là.
Alors j'ai vu ce que vous avez dit à propos d'une de vos filles. Elle sera syndicaliste ou présidente de la République. Elle a de qui tenir, dites-moi.
C'est un peu une boutade, mais c'est vrai que j'ai une fille très revendicative.
Qui paraît-il, est-ce que c'est la même qui vous appelle exprès Mazarine très non, fort dans le métro? C'est l'autre, ça?
C'est l'autre qui a
pour
une autre forme de revendication.
Dites-moi, c'est
j'ai deux syndicalistes, mais elles savent se battre.
C'est des sacrées coquines, hein,
ouais.
Effectivement. Il y a beaucoup de sujets, Mazarine Pinjot, que j'aurais voulu évoquer avec vous. Évidemment, l'enseignement, les scénarios que vous écrivez aussi maintenant, les livres en général, comment vous écrivez. Mais malheureusement, il est déjà 18h53 et c'est l'heure de notre rubrique Les Bonnes Ondes, notre rubrique positive, comme toutes les semaines. Et ce soir, c'est avec Antoine Geoffin. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Alors ce soir, à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, un exemple de ce qu'il est possible de faire quand on laisse ses préjugés de côté.
Et oui, comme ce restaurant qui embauche majoritairement des personnes trisomiques, il s'appelle Le Reflet. Ce n'est pas le premier du genre, il a un grand frère à Nantes depuis 3 ans.
On était d'ailleurs allé sur place à l'époque.
Le Reflet parisien, lui, a ouvert en septembre dans le quartier du Marais. C'est un endroit chaleureux, autant pour le cadre que pour l'ambiance vraiment intimiste.
Alors visiblement, vous avez été séduit, on y va.
Comment on appelle ton poste?
Le poste de cuisinière.
Non,
Eurydice n'en démord pas. Avec sa toque, la jeune trisomique tient gentiment tête au chef Ibrahima dans sa cuisine.
Comment on les appelle les cuisiniers qui accompagnent le chef?
Les cuisinières.
Si je te dis commis, ça te parle? Commis de cuisine.
Ça n'existe pas, ça.
Ambiance bon enfant, Eurydice épluche des patates, elle en fera un écrasé.
J'aime bien faire les 3 plats ratatouille, lasagne, cipollata. Plus tard, je vais faire cuisinière, passer la télé top chef.
Bah, c'est bien, t'as bien parlé, tu t'es bien présenté et je suis content, t'as pas été timide.
Ça c'est vrai, oui.
Bah, tu vois, des fois t'es timide, il faut juste parler. Hein?
Ouais.
En plus, t'as raconté ta journée en cuisine, alors là vraiment... Bravo,
Ibrahima, ancien commis du Phuket, s'était fatigué de l'ambiance militaire. Ici, il retrouve du sens à son métier en canalisant son aide de cuisine avec patience.
Et donc, tes pommes de terre, ils sont là. Qu'est-ce qui te manque? Voilà, tes gants. Oh, bah voilà.
Il faut juste les guider, mais ils connaissent. Faire une brunoise, ils font ça très bien. Vous revenez, vous retrouvez des formes triangles. Pourquoi? Parce qu'elle aime bien les formes, ça l'amuse. C'est un jeu, en fait, pour eux, la cuisine. C'est un jeu, parce qu'il y a des fois... Ils vont se perdre, hein. Mais même moi, je vais être distrait un peu en cuisine. Hop, ma viande, elle a grillé. Eux, faut dire que c'est x10, quoi. Il y a des fois, ils nous font des crises, hein. Et puis, c'est des crises qu'on connaît pas. Enfin, ils vont se refermer. Ben, ils vont aller au coin. C'est des petites choses.
Ils vont bouder.
Ils vont bouder, voilà. C'est comme des enfants, quoi.
Je suis une vraie cuisinière, moi. Voilà, c'est bon. C'est quoi, ça?
Bon, c'est rien, ça. D'ailleurs, c'est un chiffon qui est sale. Donc, à mon avis, t'as dû prendre un chiffon qui est sale. Et c'était pourquoi? Pour bloquer ta planche?
Oui.
D'accord, alors ce qu'il faut faire, comme tu fais tous les jours, Eurydice, faut oublier, tu te laves les mains d'abord, c'est très important, c'est bien. Je te laisse te laver les mains. Le matin, j'ai droit à des bisous, tout ça.
Vous avez votre quota pour la journée après?
Ah ouais, vraiment. Donc à choisir, à travailler au Phuket ou mes anciens employeurs, choisi direct ici.
En tout, ils sont 8 trisomiques en CDI au Reflet, 1 en cuisine ce soir, 2 en salle, Ibrahim et Inès, parfois guidés par le gérant Olivier.
Olivier, on a 2 entrées,
d'accord.
2 plats,
et d'autres desserts.
D'accord, super, j'ai tout compris.
Ici, ils ont quand même déjà une grosse formation et je me suis rendu compte dès le début qu'ils travaillaient déjà très très bien tous. Et là, à force de les coacher, de leur apprendre des trucs, je me rends compte qu'ils prennent plein d'initiatives et que j'ai plus trop besoin d'être derrière eux pour leur demander des choses, ils vont le faire d'eux-mêmes. Des fois, ils n'ont pas de nuances, donc ils sont assez directs avec les clients. Et des fois, j'essaie de capter ça. Par exemple, la dame n'a pas fini son assiette, et ils vont aller voir, il fait « bah vous n'avez pas fini ». Donc c'est un truc comme ça, et des fois, les clients sont un peu surpris de ça. Et moi, derrière, j'arrive et je passe un peu de pommade. Et après, ça fait partie du charme, hein. C'est très humain ici. Hein.
Les gestes des serveurs sont assurés et côté client, on apprécie leur gentillesse.
Merci beaucoup. Voici la patate. Voilà.
Le poisson du jour, c'est quoi?
Le poisson du jour, c'est...
Le poisson selon la marée.
Attends, excuse-moi. À mon avis, c'est de la lotte, ouais, je crois.
Pour venir dans quelques minutes pour reprendre les commandes, c'est ça?
Bah oui. Soit c'est moi, soit c'est mon collègue, mon Brahim. Bah, je vous laisse. Hein.
Sans chichi, un peu plus joyeux, un peu plus gai, un peu plus spontané. On se sent tout de suite embarqué, quoi. Voilà.
Ils sont hyper attentifs. Et moi, ce qui me touche, c'est qu'ils ont l'air stressés, en fait, quand même. Ils ont l'air joyeux, mais en même temps, ils ont tellement envie de faire bien que c'est touchant.
Ça me redonne confiance dans l'homme, dans l'avenir, ainsi de suite. C'est-à-dire que chacun peut avoir sa place, être complémentaire, ainsi de suite. C'est ça qui fait une société et un monde. Ça m'émeut. Bah ouais, bien sûr. Ouais.
Et puis en plus, la nourriture est bonne, de saison et locale. Comptez 30€ le soir pour entrée, plat et dessert.
Un reportage signé Antoine Geoffin au restaurant Le Reflet dans le Marais à Paris. Comment favoriser l'emploi des personnes handicapées? Ce sera le thème du Téléphone Sonne à 19h20 sur France Inter. Le Standard attend vos appels au 01 45 24 7000. Un grand merci Mazarine Pinjot d'être venue ce soir sur France Inter. Je rappelle le titre de votre livre, Se taire, c'est aux éditions Julliard. Vous allez le signer un petit peu, il y a des séances dédicaces?
Oui, je fais pas mal de salons du livre et je serai à Angoulême là le week-end prochain, c'est-à-dire celui du 29-30, 30 novembre.
Voilà, effectivement, c'est la semaine prochaine, réactions sont... On vient vous voir
pour plein de raisons.
Parler de plein de choses, j'imagine.
Ouais.
Un grand merci d'être venu ce soir.